WinLab, Innovation Live, épisode 3, l'éco-conception dans la construction, opportunité à saisir pour les apprenants. Présenté par le 3CABTP.
Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce troisième volet. Petite particularité, nous sommes aujourd'hui en direct sur Bâti Radio et Radio Immo. Merci de nous accueillir. Alors vous le savez, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et les nouveaux usages de la construction.
Alors le WIL, c'est une série imaginée par le 3CABTP, acteur majeur de la formation professionnelle dans les secteurs de la construction et de son incubateur WinLab. Et donc notre volonté chaque mois est de décrypter l'actualité, les tendances de la construction avec des experts invités.
Oui, vous le savez aussi, vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. C'est la mécanique. Tout à l'heure, c'est vous qui poserez les questions à nos intervenants dans la séquence Open Questions. Car c'est WinLab Innovation Live se découpe en 5 parties. La présentation du jour avec le pitch time qui arrive juste après, puis l'échange avec Yadeba, suivront les questions qui fâchent en troisième partie, puis la séquence open question dont je vous parlais, et enfin le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab.
Alors, et aujourd'hui, donc pour cette troisième édition, éco-conception, une opportunité à saisir pour les apprenants, nous allons nous intéresser à l'intégration de l'éco-conception dans la construction d'ouvrages, et puis surtout dans leurs conséquences pour la formation et les compétences.
Alors, le WinLab Innovation Live, Franck, c'est parti, on commence tout de suite avec notre première partie, le pitch time. On se présente dans le pitch time, on présente le thème du jour, viendront ensuite nos invités présents. Franck, pourquoi avoir choisi ce thème éco-conception, une opportunité pour les apprenants?
Cette série de WIL raconte une histoire, l'histoire des bâtiments, des ouvrages tout au long du cycle de vie. Et donc il nous paraissait évident de commencer par l'éco-conception, puisqu'en fait c'est celle qui va déterminer toutes les phases de vie du bâtiment. Et donc la première étape dans cette projet de construction, c'est la conception, comme on vient de le dire.
Alors expliquez-nous pourquoi elle est primordiale, cette première étape.
Elle est primordiale parce qu'elle va définir le futur. Elle va définir le futur du bâtiment, le cycle de vie et la façon dont on va déterminer les usages. Donc ça va déterminer l'intégration du bâtiment dans son environnement, ça va déterminer l'évolution de l'occupation, la qualité de vie des occupants et puis aussi sa consommation d'énergie notamment.
On ne le dit pas assez, mais une mauvaise phase de conception peut être désastreuse, peut coûter cher, énormément d'argent d'ailleurs. Vous avez quelques exemples pour illustrer ces mauvaises conceptions que l'on a connues par le passé.
Oui, exactement. Donc rappelez-vous, dans les années 50-60, nous avons construit massivement avec de grands ensembles qui ont été faits dans l'urgence, qui n'ont pas forcément tenu compte de ces enjeux de l'économie circulaire. On ne parlait même pas d'économie circulaire à cette époque-là, mais donc de l'intégration du bâtiment. Et donc, ça donne aujourd'hui des quartiers vétustes, des quartiers qui sont des passoires thermiques. Rappelons-le, aujourd'hui, 5 millions d'habitations considérées comme des passoires thermiques, des déficits d'équipement, des risques de pollution, notamment au plomb, à l'amiante, par exemple, et puis évidemment des problèmes de renouvellement de l'air.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à ces mauvaises conceptions, à ces situations?
Alors, ce que l'on a fait... Pas nous, mais ce qu'a fait le programme de renouvellement urbain, c'est entre 2004 et 2020...
Lancé par l'État. Hein.
Oui, lancé justement par l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc à réhabiliter des quartiers, donc des zones urbaines sensibles, ces fameuses ZUS, donc en France et en Outre-mer, pour arriver à rénover, à restaurer 600 quartiers sur l'ensemble du territoire. Et donc, en parallèle, depuis 2014, il a été lancé un nouveau programme de renouvellement urbain.
Parce qu'on a de nouvelles exigences.
Exactement, donc évolution des exigences avec une vision à 2030, donc qui correspond aux enjeux aussi de décarbonation. Et donc aujourd'hui, ce NPRU présente des objectifs renforcés sur la diversification des parcs avec, on va dire, quelques chiffres clés de ce programme. Donc 450 quartiers transformés, dont 2 dans des quartiers prioritaires de priorité nationale, et puis à peu près 3 millions d'habitants concernés, ce qui représente à peu près 5% de la population française, et puis quand même un budget conséquent avec 12 milliards d'euros de subventions apportées par la NRU.
Alors vous l'avez dit, on a su tirer les leçons du passé, mais la tâche est encore immense.
Oui, la tâche est encore immense, c'est qu'il y a plusieurs éléments actuels qui peuvent générer de nouvelles erreurs. On le voit depuis 2019, depuis 2 ans, le nombre de bâtiments, de projets de construction a diminué de 12%, soit à peu près 52 000 le projet en moins. Et nous avons pour la première fois depuis 2015... enfoncer le plafond des 400 000 projets de construction, ce qui est assez grave.
C'est un
chiffre historique. Et donc, il y a un véritable risque de pénurie des logements, de pénurie des logements neufs, quand on sait qu'il y a aussi un parc de logements à rénover aujourd'hui. Donc, c'est un véritable point d'alerte sur aussi une question d'accessibilité au logement, puisque aujourd'hui, il y a encore 4 millions de personnes en France qui souffrent de mal logement. Donc, 4 millions de personnes, ça représente quand même 8% de la population française.
Mais heureusement, des acteurs tels que 3CABTP se mettent en mouvement aujourd'hui pour anticiper sur les situations à venir.
Oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on travaille aussi avec Agir. C'est, nous travaillons sur ces métiers. Rappelons-le, le 3CABTP accompagne près de 380 centres de formation, 84 000 jeunes, mais surtout sur à peu près un quart des effectifs qui sont dédiés à la transition écologique, transition énergétique dans le bâtiment. Et donc, c'est un secteur d'activité qui est en croissance de 18%. Par an.
Alors, le pitch time, Franck, on le sait, c'est d'abord et avant tout le moment où l'on présente le thème, mais aussi nos invités. Alors, on connaît Stéphane Le Guériec, directeur général d'Agir, qui était déjà présent avec nous lors du précédent Will. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane, je vous laisserai vous représenter juste après, mais d'abord, honneur à Daovon Sribouavong. Vous êtes notre nouvelle intervenante. Je vous laisse vous présenter en quelques mots.
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc Daovon, consultante, chef de projet et formatrice en économie circulaire depuis plus de 7 ans. J'ai récemment aussi intégré le groupe Bamboo Immobilier pour relever un nouveau challenge qui est de pousser encore plus loin le concept d'économie circulaire en proposant des solutions de construction permacirculaire. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée donc de construire avec certes l'existant, mais aussi de proposer de faire de la régénération en fait du vivant tout en construisant. Donc c'est finalement un peu un concept étendu de l'économie circulaire, mais en faisant de l'économie régénératrice pour favoriser la biodiversité.
Très bien, écoutez, on va rentrer un peu plus en détail sur les tenants et les aboutissants de votre activité, de votre expertise au travers effectivement du débat qui suit. Stéphane, je vous laisse nous rappeler votre activité, celle d'Agir en deux mots.
Oui, Agir, donc avec plaisir, c'est un hub d'accélération de l'économie circulaire dans la construction qui se positionne aujourd'hui comme le référent national au sein du CSF-IPC, Comité stratégique de filière industrie pour la construction, avec un engagement central qui est fort, qui est d'entraîner des mouvements systémiques et transformatifs à l'échelle nationale dans l'économie circulaire pour la construction.
Vous le dites souvent, vous êtes un do-tank.
On est un do-tank, effectivement, par complémentarité avec les think tanks. Il y en a un certain nombre de grandes qualités qui proposent beaucoup d'outils. Il nous a semblé aujourd'hui pertinent d'associer le do-tank dans une démarche dite de congruence. On dit les choses, Agir fait les choses.
Très bien. Écoutez, si vous le voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du débat avec la deuxième partie « Il y a débat ». Et je rappelle que nous sommes en direct sur effectivement Radio Imo et Bâti Radio qui nous accueillent aujourd'hui pour ce troisième WinLab. Will, Franck, avant de se lancer à corps perdu dans nos échanges, je rappelle aussi qu'on peut interagir. Les gens vont pouvoir nous poser leurs questions dans la quatrième partie, Open Question. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait.
Vous n'y êtes pas. Très bien. Il y a débat aujourd'hui. Alors, on fait bien sûr écho, sans jeu de mots, au thème du jour. Éco-conception, une opportunité pour les apprenants. Stéphane Le Guériec, pouvez-vous nous expliquer simplement l'éco-conception et nous dire comment elle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire?
Alors déjà, elle s'inscrit dans la démarche d'économie circulaire parce qu'elle est positionnée comme un des 7 piliers de l'économie circulaire, tel que présenté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et je vais d'ailleurs m'appuyer un petit peu sur cette vision de l'ADEME pour, en mots relativement simples, faire comprendre ce qu'est l'éco-conception.
L'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Exactement.
Je précise pour ceux qui ne maîtrisent
pas. Et les mots, finalement, embrassent l'essentiel du concept d'éco-conception parce qu'on a environnement et maîtrise de l'énergie. Et il s'agit dans l'éco-conception, très en amont, d'être en capacité de, sur l'ensemble du cycle de vie des ouvrages, voire des quartiers, de maîtriser l'ensemble de l'empreinte sur l'environnement. On est sur des concepts qui émergent dans les années 70. Donc on est à l'époque en pleine pression des chocs pétroliers. Il y a effectivement une remise en question des façons de faire. L'éco-conception s'est développée progressivement dans les années 80 en se tournant beaucoup sur les éco-usages, c'est-à-dire le lien entre la conception et les utilisateurs.
Réduire les déchets à la source, par exemple ?
Tout à fait, c'est le point effectivement prédominant des années 70, 80, puis 90. On a un point d'orgue avec le sommet de Rio en 1992 qui introduit la notion d'éco-efficience. Donc, qui vient un petit peu compléter cette approche d'éco-conception. Et puis, progressivement, on va enrichir, je dirais, la vision pour aller sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, très en amont avec le plus gros effet de levier. Franck, vous venez de le dire, on a bien évidemment le réemploi, le recyclage, la maîtrise des déchets, leur transformation éventuelle pour l'intégration. L'éco-conception, c'est essentiellement se poser, réfléchir, envisager une autre façon de faire avec une faible empreinte environnementale, un respect finalement des choses qui nous entourent. On parlait tout à l'heure, Daovon citait le vivant. Le vivant doit retrouver aussi sa place dans cette approche d'éco-conception des bâtiments et il a toute sa légitimité. On le voit avec des valeurs telles que biodiversité, végétalisation, à tout niveau, dans le bâtiment, au niveau des quartiers. L'éco-conception, c'est remettre un petit peu les éléments importants au milieu de la table pour penser différemment les ouvrages de demain.
Parce que dans le BTP, on raisonne en projet et non pas en produit.
C'est une spécificité, effectivement, de la construction. On a autant de bâtiments différents, quasiment, que de projets.
On construit pour des usagers. Pour des occupants, pour des gens qui vont faire vivre ces structures ?
Exactement. Alors ça, c'est un point de vue qu'il ne faut jamais négliger, si je puis dire. C'est que l'objectif, c'est de mettre à disposition des constructions pour des usagers. Donc au centre des préoccupations de l'éco-conception, il y a l'usager. Il y a le bien-être de l'usager, il y a le confort au sein du bâtiment. On parle de confort thermique, on parle de confort en termes acoustiques, notamment. On parle de confort d'usage, qui est déterminant dans la question de l'éco-conception, parce que on va travailler sur la plus longue durabilité si l'usager se sent le plus longtemps possible en situation confortable dans les bâtiments. Or, la question, effectivement, de la sobriété dans l'utilisation des matériaux renvoie à la durabilité des ouvrages. La durabilité des ouvrages, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions techniques. Encore faut-il que les usagers soient en situation de confort dans ces bâtiments pour que le plus longtemps possible, ils souhaitent évoluer au rythme parfois des solutions des conceptions qui sont des solutions d'évolutivité des bâtiments.
Je me tourne vers Daovon. Vous êtes, vous, déjà intervenu à différents niveaux au cours de votre carrière. Vous allez peut-être nous préciser lesquels et avec le recul nous dire également ce qu'est l'éco-conception, comment elle est perçue au niveau opérationnel.
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt un rôle de formatrice où je sensibilisais, où j'étais vraiment dans une forme de convaincre en fait les maîtrises d'ouvrage d'adhérer en fait à cette forme d'éco-conception et ces démarches d'économie circulaire. Et c'est vrai que maintenant, je prends un peu plus de hauteur et je sors de la technique et j'ai beaucoup plus un rôle de coordinatrice. Donc, j'accompagne les maîtrises d'ouvrage vraiment dans des projets d'ensemble pour les accompagner vers plus de virtuosité. Et c'est vrai qu'il y a deux démarches que je perçois de manière opérationnelle dans l'éco-conception. Donc d'une part, ça va être une démarche un peu plus, on va dire, linéaire, mais on a envie quand même de faire mieux, à savoir, donc on conçoit un bâtiment, une architecture, et on vient y accoler en fait des solutions de matériaux, soit biosourcés, soit de réemploi. Donc on est un peu dans une forme d'éco-conception. Mais je dirais qu'il y a mieux, on peut mieux faire, à savoir que si on est dans une démarche beaucoup plus en amont, l'idéal, en fait, ce ne serait pas de partir d'une feuille blanche quand on conçoit, mais bien des ressources disponibles sur le territoire. Donc, en préalable, dans l'éco-conception, on doit faire donc un diagnostic des ressources potentielles du territoire qui ont un potentiel donc, de réemploi et aussi analyser les ressources aussi biosourcées, locales, etc., avant de commencer cette phase d'éco-conception.
Donc, deux démarches, une très en amont, l'autre qui vient s'accoler quelque part à un projet architectural.
C'est ça.
Est-ce qu'il y en a une qui obtient des meilleurs résultats que l'autre ?
Eh ben c'est vraiment l'idée de ne plus partir d'une feuille blanche et maintenant de concevoir avec l'existant. Donc la première, la démarche en amont.
D'accord.
Et alors, Stéphane, on constate que l'éco-conception, c'est ça, mais pas que ça non plus.
Ça n'est pas que ça. Effectivement, on est dans une approche multithématique et donc multicompétences, ce qui renvoie au sujet du jour autour des apprenants, autant d'opportunités d'investir de nouveaux domaines pour tous les apprenants, que ce soit les apprenants sur la partie initiale de leur parcours de formation, mais bien évidemment tout au long du parcours, je dirais, de vie professionnelle, voire de vie d'ailleurs non professionnelle, parce qu'on peut aussi apprendre dans ces domaines-là. Et on a une approche qui est possible dans les multidimensions de l'éco-conception que l'on peut cadrer sur le cycle de vie du déroulement d'un ouvrage entre, bien évidemment, sa conception. À un moment donné, vont intervenir un certain nombre de personnes qui vont réfléchir au regard des cahiers des charges, des architectes, des urbanistes, des bureaux d'études, selon les spécialités thermiques ou autres. Et puis, une fois que l'ouvrage lui-même va commencer à sortir, je dirais, du sol, on va avoir différentes phases qui vont à nouveau intégrer l'éco-conception des éco-concepteurs à différents moments. Donc, maintenance du bâtiment, parce que, je le rappelle, l'objectif, c'est de diminuer l'empreinte environnementale. Donc, il faut s'assurer que ce bâtiment ou ses parties d'ouvrage vivent le plus longtemps possible, cohabitent dans différentes infrastructures en intelligence de l'éco-conception pour pouvoir éventuellement soit être dans une logique de bâtiment modulaire, donc évoluer au sein d'un même ouvrage, voire à un moment donné, en fin de vie, et là on a de nouvelles dimensions qui s'offrent à nous, effectivement, l'analyse des bâtiments en fin de vie, sous forme d'un certain nombre de diagnostics, pour voir comment réfléchir un certain nombre d'éléments d'ouvrage, et où, in fine, si les éléments qui ont été réfléchis vers de nouvelles destinations, une nouvelle vie, sont épuisés, essayer de requalifier un certain nombre de matériaux pour à nouveau les réinjecter dans une logique d'éco-conception circulaire dans une nouvelle vie d'ouvrage.
Donc l'éco-conception est un outil puissant pour converger vers des objectifs durables, plus durables, à la croisée des chemins entre on va dire nécessité de changer d'un point de vue sociétal, environnemental.
Oui. Ça englobe des enjeux sociaux, environnementaux, économiques,
c'est
ce qu'on comprend.
Tout à fait.
Oui, alors la croisée des chemins, effectivement, est une belle expression parce que c'est aussi l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Il y a, je le rappelle, un certain nombre de pressions fortes sur le terrain environnemental. On est bien au cœur du sujet de l'éco-conception, réduire l'empreinte sur l'environnement. Aujourd'hui, les signaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Les articles, et là aussi, on est multi-sujet, ne cessent de tomber, je dirais, tous les jours sur tout type de médias. On parlait, il y a encore quelques jours, des poumons verts, notamment la forêt amazonienne, qui est en grande difficulté, ce qui était des puits de carbone dans un mouvement un petit peu surprenant. Le puits commence à rejeter, alors qu'on s'attend à le voir capter. Oui. On a également des informations qui mérite intérêt, j'aime pas trop le terme inquiétant parce qu'il peut être de nature à paralyser, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Au sujet du Gulf Stream, effectivement, donc qui n'est plus du tout dans la dynamique qu'on a pu connaître ces 10, 50, 100 dernières années.
On a de nombreuses alertes environnementales.
Donc il y a des clairement préoccupations. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et l'éco-conception fait partie dans le cycle de déploiement de la construction à vocation économie circulaire qui mène vers le développement durable. L'éco-conception est également une clé de voûte pour bâtir les bâtiments de demain.
Et pour bâtir les bâtiments de demain, Franck, on va avoir besoin de nouveaux métiers. J'imagine qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Quels sont les métiers qui sont concernés par l'éco-conception? Vous êtes le représentant de la formation dans le secteur.
Oui, alors nouveaux métiers, nouvelles compétences, évolution des métiers. Donc il y a, en fonction des différentes, des quatre phases clés, donc sur la phase de conception, il y a l'architecte, assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études. Sur la phase opérationnelle, les artisans, on le redira tout à l'heure, mais qui composent, on va dire, la grande majorité aujourd'hui des entreprises du bâtiment et de la construction. Une phase d'utilisation, donc avec des agents d'entretien du bâtiment durable. Et puis, en dernier lieu, en fin de vie, des experts de la déconstruction et du réemploi.
Donc on peut dire que toute la chaîne est concernée par l'éco-conception à partir du moment où on met en place ce projet. Où en est l'éco-conception en 2021 d'Aovon? Que voyez-vous dans votre cercle opérationnel?
Alors clairement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience assez généralisée de l'ensemble de la chaîne des acteurs, des professionnels du bâtiment. Donc ça passe par des maîtrises d'ouvrage publics comme privés qui collaborent ensemble à créer des clusters, des boosters de réemploi, etc. Et puis il va y avoir aussi les concepteurs, les architectes, les artisans qui vont, eux, vouloir se former, sensibiliser à ce sujet d'éco-conception et vouloir se mettre un peu à la page. Donc pour tout ça, il y a tout un panel, on va dire, d'outils, de méthodes et de guides, puis de formations sur la toile actuellement. Et je dirais aussi qu'il y a les pouvoirs publics qui sont très présents et soutiennent financièrement à travers des appels à projets, justement ces projets d'éco-conception.
Est-ce que c'est un mouvement qui prend dans le secteur du BTP, l'éco-conception? Est-ce que cette approche est en train de prendre?
Je pense que tous les voyants sont au vert, effectivement, et que maintenant, je pense que l'enjeu, ce serait encore de pousser encore plus loin, c'est-à-dire la collaboration, vraiment que tous ces acteurs se mettent un peu en synergie et co-construisent ensemble, justement, des projets vertueux.
Stéphane, l'éco-conception, elle a été un peu poussée par le Grenelle de l'environnement en 2009.
Oui, c'est un mouvement important. 2009, on a une année un petit peu charnière, si je puis dire, où après un certain nombre d'années où des choses se développent, mais pas encore avec une emprise marquée sur les territoires, sur le quotidien, là où les actions doivent être déployées, en 2009, il y a une accélération. Donc on a un premier train législatif, effectivement, avec ce Grenelle de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui se mettent autour de la table et qui décident de faire bouger les lignes, si je puis dire, et de mettre en œuvre un certain nombre de concepts qui existaient et de les déployer. Donc on a derrière une accélération des différentes lois qui recouvrent ces sujets. 2015, citer les plus importantes, 2015, on a la loi de transition énergétique pour une croissance verte, et on a plus récemment, là, puisqu'on parle de 2020, effectivement, la RE 2020, qui vient poser un nouveau cadre, je dirais, sur le terrain législatif, donc un peu une certaine pression, effectivement, de lois qui viennent pousser les acteurs à aller plus vite. Daovon l'a indiqué, il y a des mouvements sur le terrain. L'ensemble des populations commencent à faire converger leurs convictions personnelles avec leurs orientations professionnelles. Donc, elles se saisissent de ces sujets sur le terrain. Et le législateur vient rajouter, restons positifs, on va appeler ça une saine pression, pour que le mouvement aille encore plus vite et puisse se diffuser sur l'ensemble des territoires, et pour l'ensemble des corps de métier.
Il y a eu la loi anti-gaspillage aussi, pour l'économie circulaire aussi, qui a été mise en œuvre, c'est ça ?
Oui.
On est dans, effectivement, une incitation forte vis-à-vis du public. Mais est-ce que ce n'était pas plus facile jusqu'à maintenant de choisir aussi un artisan qu'on connaissait plutôt qu'un artisan qui s'inscrivait dans cette démarche ?
Sûrement. Il faut, pour être en ligne, je dirais, avec l'ensemble des valeurs portées par l'économie circulaire, le développement durable, l'éco-conception, il faut être transparent et honnête. Autrement, ça revient quelque part à se voiler la face et on n'arrivera pas à porter l'ensemble de ces sujets à la hauteur des ambitions qui doivent être les nôtres. Donc, clairement, il y avait une recherche, je dirais, un petit peu affinitaire des artisans que l'on connaît, mais que pour des bonnes raisons. Parce qu'on allait vers ces artisans sachant qu'ils déployaient un travail de grande qualité.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, de mon point de vue, et également comme vient de le souligner Daovon, il y a convergence parce que ces mêmes artisans, eux-mêmes, progressivement, font converger leurs valeurs, s'intéressent à ces sujets, pour nombre d'entre eux, s'impliquent pour monter en compétences. Et puis, il y a tout le travail, bien évidemment, qui est mené, comme le disait Franck il y a quelques minutes, par le 3CABTP, tirer l'ensemble des 380 centres qui sont accompagnés sur ces thématiques que l'on qualifie encore de nouvelles, mais qui ne le sont plus, sur ces thématiques d'actualité que sont l'économie circulaire, l'écologie, la rénovation énergétique,
l'éco-conception,
voilà, etc.
Ce ne sont plus des thématiques qui sont vues comme une cerise sur le gâteau. Elles sont partie prenante, vous le dites, hein, de la vision que l'on développe dans le BTP. Et justement, je rebondis sur vos propos, Stéphane, pour interpeller Franck. Vous le disiez dans le Wheel 2, les artisans représentent 99% du secteur BTP. C'est 60% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, c'est aussi à l'économie circulaire de tenir compte de ce tissu-là, et par l'inverse, hein, l'éco-conception ne se fera pas sans ceux qui vont maîtriser effectivement les métiers.
Et oui, exactement. Et pour compléter ces chiffres, 70% des entreprises formatrices aujourd'hui sont des entreprises artisanales, des entreprises de moins de 20 salariés. Donc on voit bien l'importance, et c'est ce qu'évoquait Daovon ou Stéphane à l'instant, c'est il y a cette nécessité que les artisans s'emparent du sujet de manière progressive, donc il n'y aura pas de passage de 0 à 1 du jour au lendemain, mais vraiment ça se fait par du travail en collaboratif, par du décloisonnement, par une vision systémique de l'ensemble du bâti, et aussi par une vision territoriale de la ressource. Donc on le disait, on va le voir dans les minutes qui vont suivre, eh bien, il y a un enjeu territorial, il y a un enjeu de comme on peut parler dans l'alimentation, de locavore, de loca-consommateur. Je consomme local, je produis local, et je favorise le réemploi. Donc c'est aussi ça, c'est d'avoir cette vision, on va dire, qui est ancrée au niveau territorial. Je suis un acteur territorial, un acteur écologique et économique de mon territoire.
Daovon, justement, quand vous mettez en avant l'éco-conception auprès des artisans, comment ils perçoivent l'éco-conception ?
Alors, bon, clairement, moi, je pense que déjà, l'éco-conception, c'est une démarche artisanale en soi, puisque c'est une valorisation des savoir-faire artisanales dans le but d'une préservation, finalement, des bâtiments. Quand on fait du réemploi des matériaux, on est dans une démarche préservante. Donc, finalement, ça me fait penser à par exemple, j'ai en tête la DNA House en Belgique. On voit que tout le bâtiment a été construit avec des briques de réemploi. Donc, pour mettre en œuvre effectivement ce type de bâtiment, il faut savoir que c'est de l'intelligence de la main, en fait. C'est valoriser des savoir-faire donc artisanaux. Et oui, je pense que comment est accueillie l'éco-conception par les artisans aujourd'hui, je dirais que certains vont craindre un peu cette forme de complexité parce qu'on pense que ça prend plus de temps finalement et donc c'est plus coûteux. Mais d'autres vont vraiment faire l'effort et mettre tout en œuvre pour réaliser ce type de réalisation en éco-conception puisque ça donne du sens, ça valorise leur métier.
Ça veut dire que petit à petit, certains paramètres qui étaient perçus comme des freins n'en sont plus pour les artisans ?
Oui, effectivement. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que la filière se structure, on arrive donc à lever les freins qui sont donc techniques, réglementaires, assurantiels, etc. et donc de faire, d'engager davantage les artisans.
Et pour lever les freins, il faut avancer progressivement. Je pense que ça vous parle, ça, Stéphane.
Oui, alors, parfaitement, parce que c'est effectivement dans les gènes d'agir avec un credo, c'est que toutes les opportunités sont à saisir, qu'il n'y a pas de petites choses. Dès lors qu'on s'engage dans ces démarches d'éco-conception, d'économie circulaire pour aller vers le développement durable, il faut respecter toutes les ambitions, aussi humbles soient-elles. Donc aujourd'hui, on voit émerger tout un tas d'initiatives. Il y en avait beaucoup sur le terrain, effectivement, de réflexion conceptuelle, de montage d'un certain nombre d'organismes. J'entendais tout à l'heure le mot « cluster ». Il y a effectivement beaucoup d'initiatives pour regrouper, fédérer. Mais il y a également sur le terrain énormément de personnes qui se saisissent du sujet. Beaucoup d'initiatives ne sont pas médiatisées. Pour autant, elles méritent le respect. Et c'est toutes ces initiatives-là qu'Agir souhaite encourager, souhaite répliquer. On accompagne un certain nombre de projets dont l'ampleur aujourd'hui, je dirais, ne permet pas de faire la première page d'un certain nombre de journaux. Ce faisant, on a, par la multiplication et la réplication de tous ces projets, on est sur un mouvement qui va devenir systémique et transformatif. C'est bien ce qu'on vise.
Oui, on a construit les pyramides avec une multitude de grains de sable, donc c'est ça aussi qui font les beaux édifices. Il y a donc des défis organisationnels à relever, vous agissez dessus. Franck, on le répète encore et toujours, le tissu artisanal joue un rôle important dans le développement de l'éco-conception.
Oui, il joue un rôle important, et il joue un rôle important, je dirais que c'est... Alors, de notre point de vue, c'est un binôme entre l'apprenti et l'entreprise formatrice. Rappelons-le, 84 000 apprentis, donc nous sommes à peu près sur 60 000 entreprises formatrices qui sont essentiellement des TPE, PME. Et donc la démarche est vertueuse, c'est qu'il y a l'usager, donc l'artisan s'adapte aussi aux évolutions des usages, ça s'adapte aussi à cette notion d'éco-conception et de prise de conscience du rôle écologique qu'il a, et puis aussi, je dirais, cette notion de rivalité. Reverse mentoring, c'est-à-dire que l'entreprise formatrice ou l'entreprise tout court, l'artisan, forme, accompagne sur le terrain. Et puis l'apprenti aujourd'hui, eh bien, lui apporte aussi son regard avec ce qu'il peut apprendre aujourd'hui dans le cadre de ses différentes formations et dans le cadre des formations qu'il a dans les organismes de formation. Donc c'est une démarche collective, une démarche systémique, une démarche vertueuse qui embarque, je dirais, le triptyque gagnant entre l'artisan, le triptyque entre l'artisan, l'apprenant et puis l'organisme de formation. Et au final, tout le monde en bénéficie, y compris les usagers.
Oui, l'éco-conception ne doit pas être hors sol. C'est ce qu'on a perçu en filigrane. Deux questions pour finir le débat. Qu'est-ce qui permet de vulgariser aujourd'hui l'éco-conception, justement? Est-ce qu'il y a des outils existants à disposition?
Bonne nouvelle, il y a tout ce qu'il faut. Alors déjà, vulgariser, de mon point de vue, c'est diffuser et c'est donc former. Donc on est tout à fait ici entre personnes qui ont parfaitement compris les enjeux pour un développement massif de l'éco-conception comme point de départ à l'économie circulaire dans le monde de la construction. Et ça passe, bien évidemment, par les apprenants qu'il va falloir embarquer. Les outils...
Est-ce qu'il y a des outils de référence, là, déjà, aujourd'hui? Quelques outils que...
Alors déjà, il y a l'approche un petit peu générale qu'on a effectivement précisée en introduction lorsqu'on a défini l'éco-conception vision ADEME, qui est l'analyse de cycle de vie. Donc là, bon, parlons un petit peu de technique. Il y a effectivement le référentiel ISO 14000, un peu décliné. Il y a aux quatre phases, 14 041, 42, 43 pour la partie analyse de cycle de vie. Donc ça, je dirais, c'est la pierre d'angle. On doit s'appuyer effectivement sur ce cadre standardisé. Et ensuite, il faut, dans une démarche efficiente, capitaliser sur l'ensemble des outils qui sont au service de l'économie circulaire et d'une, je qualifierais, une construction responsable. Donc sur les événements du WinLab, initialement, on avait évoqué construction numérique et BIM, et c'est effectivement un outil sur lequel on doit s'appuyer de manière tout à fait importante. On bascule sur l'approche analyse cycle de vie et ensuite on capitalise avec d'autres référentiels, typiquement des référentiels HQE, haute qualité environnementale, avec une mention spécifique dans ce référentiel économie circulaire. Donc les outils ne montent pas. Ce qui, de mon point de vue, est déterminant, c'est échanger, partager, se poser, réfléchir à son projet, au besoin, se faire accompagner. Et ensuite, tout est sur la table pour faire des projets qui sont gagnants sur le terrain des usagers et bien évidemment sur le terrain environnemental.
Vous nous rassurez, ça veut dire que la boîte à outils est à disposition de tout le monde, ce qui est plutôt mieux dans le bâtiment. Ces outils, Franck, ils nécessitent des savoirs renouvelés, n'est-ce pas ?
Oui, ils nécessitent des savoirs renouvelés. Donc, de la phase de conception jusqu'à la phase d'exploitation et de déconstruction. Donc, si on part de la phase conception, la base INES, donc, est encore aujourd'hui à alimenter, à agrémenter. Donc, là, pour le coup, nous avons un rôle à jouer dans le cadre de notre partenariat avec Agir et WinLab. Donc, d'étoffer aussi avec des nouveaux métiers. Alors, ces métiers émergents, je dirais, tels que ingénieur éco-concepteur qui va être en charge d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un procédé sur l'ensemble du cycle de vie ou sur la phase d'exploitation, eh bien on a ce métier émergent d'agent durable du bâti qui, lui, va travailler sur les usages, sur la performance du bâti et sur cette notion de réversibilité du bâtiment pour travailler sur la durabilité du bâtiment. Il y a un élément qui est clé aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais on l'a évoqué précédemment, c'est ce que disait Stéphane à l'instant, c'est le digital. Le digital, pas pour le digital, mais le digital pour l'usage. Donc le digital doit être un accélérateur de partage d'informations, de décloisonnement, de montée en compétence de l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis, digital égale décloisonnement, égale collaboratif. Donc c'est l'éco-conception, vision systémique, une vision systémique et territoriale, et avoir un accélérateur, un vecteur qui est le digital et le décloisonnement des usages.
Avant de passer aux questions qui fâchent, juste après, on revient au thème du jour. Est-ce que vous pouvez, là, en deux mots, parce que on parle, mais le temps tourne, nous citer quelques opportunités que l'éco-conception revêt pour les apprenants?
Bah, très concrètement, je fais un peu de teasing, Stéphane, c'est que très concrètement, nous travaillons ensemble dans le cadre de ce Do Tank, nous faisons. Voilà, nous ne sommes pas dans de la théorie, nous faisons. Et donc, dès demain, donc, nous allons engager des actions avec des organismes de formation dans les territoires, nous le verrons plus tard, pour être justement à la croisée des chemins entre ces enjeux territoriaux et ces enjeux de l'économie circulaire et de l'éco-conception.
Des enjeux de formation, donc, notamment très en phase avec les attentes des publics qui sont concernés.
Exactement, parce que rappelons-le, et je dirais que autant pour Agir que pour le 3CABTP, donc, nous avons vocation à adapter les compétences, adapter les formations aux attentes des entreprises de la construction au sens large.
Daouvon, quelles opportunités, selon vous ?
Alors moi, je vois avant tout une opportunité de marché. J'entends beaucoup de professionnels du bâtiment qui veulent se mettre à la page, donc se former, se sensibiliser pour accroître certes la valeur et le sens de leur métier, mais surtout rester compétitif sur le marché.
Stéphane ?
J'entendais être à la page. Être à la page, c'est ouvrir le livre à la bonne page. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des apprenants, ça veut dire être congruent sur leurs valeurs. J'aime ma planète, j'aime mon environnement. Donc, avec cette démarche et cette implication, j'aime mon métier.
Écoutez, merci pour ces premiers éléments de réponse. Je rappelle qu'on est toujours en direct sur Bâti Radio, Radio Imo. Et pour ce Wheel 3, on continue d'aborder le thème du jour sous une autre forme avec les questions qui fâchent. C'est tout de suite. Alors, les questions qui fâchent, vous le savez, ce sont des questions pour aborder le thème du jour d'une façon un petit peu, allez, que je qualifierais de poil à gratter. Alors, première question qui fâche, l'éco-conception, c'est plutôt économie, écologie ou les deux ? Stéphane ?
Alors, les deux, c'est Stéphane, la réponse est directe. Là, je pense que les auditeurs auront bien compris depuis le début. On a insisté, le point de départ, c'est l'environnement. Donc, on est plutôt effectivement dans la dimension écologique. Progressivement, la maturité, je dirais, autour de la réflexion sur ces sujets se déploie. J'évoquais également tout à l'heure le sommet de Rio, 92, éco-efficience. Éco-efficience, bah, l'économie rentre pleinement dans le domaine. Et donc, au fil des réflexions et des déploiements, on s'est largement rendu compte, si je puis dire, que le plein succès de ces démarches ne pouvait être obtenu que s'il y avait également un équilibre économique. Parce que bah, sur les marchés sur lesquels on évolue aujourd'hui dans le monde de la construction, ça implique des professionnels, c'est pour eux qu'on travaille. Eux-mêmes sont certes à disposition effectivement d'un certain nombre d'usagers, mais bien évidemment tout ça pour que ce soit pérenne et qu'on arrive dans la durée à répondre à toutes les ambitions qu'on souhaite servir, il faut que les entreprises qu'on accompagne soient robustes et que l'éco-conception, l'économie circulaire, soit à la fois des sujets écologiques et économiques.
On n'est plus dans une économie linéaire, on a changé de paradigme, ou en tout cas on est en train de le faire, hein. c'est ce que vous dites. Dao Von, votre point de vue sur ça ?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors moi je dirais qu'effectivement quand on fait de l'économie circulaire, donc de surcroît de l'éco-conception, on a cette volonté donc, de diminution des coûts puisqu'on fait de l'économie de la matière. Mais alors, je pense qu'il faudrait le voir un peu différemment. Donc, comment je le vois, c'est plus un investissement, on va dire, humain, puisque finalement, les économies de coûts de matière vont pouvoir bénéficier plutôt à toute une chaîne de valorisation, une chaîne de services et de prestations de services de tous ces acteurs qui vont permettre justement cette éco-conception à travers le réemploi des matériaux, par exemple.
Est-ce que vous connaissez des personnes qui regrettent d'être passées à l'éco-conception, par exemple ?
Alors,
non, mais autant parler franchement.
qui regrettent ? Non. Non, honnêtement, non. Mais par contre, c'est vrai que je peux avoir des clients qui vont plutôt affirmer cette forme de complexité, surtout au démarrage des projets. Hein. C'est pas
simple. Parce que c'est trop lourd à déployer, trop cher. Mais en fait, il faut voir le projet en son entier, c'est ce que vous dites ?
Trop lourd à déployer, non, c'est une forme de... En fait, c'est une démarche qui est aussi gratifiante, mais quand on y arrive, quand on y aboutit, on a une telle satisfaction que finalement aussi les usagers l'ouvrage en tant que tel, la démarche est gratifiée aussi par les usagers finaux.
Deuxième question qui fâche, hein, ça va vite dans cette partie, vous le voyez. Est-ce qu'avec de nouveaux experts éco-concepteurs, on n'est pas en train de complexifier une chaîne d'acteurs déjà très dense ? Franck ?
Je dirais que non, puisque en fait aujourd'hui...
Parce qu'on dit souvent qu'on crée un nouveau métier en fait, quand il manque quelque chose et on alourdit un peu.
Et c'est vrai que le sujet est assez sensible. Moi je dirais qu'on n'invente pas de nouveaux métiers, on complète le dispositif, on fait évoluer les compétences, on élargit des métiers. Je dirais qu'aujourd'hui, soit on va compléter avec des nouveaux métiers lorsqu'il y a, il n'y a pas de les métiers qui correspondent, soit on fait évoluer les compétences par rapport à
ces métiers-là. C'est ça. Et c'est là où vous intervenez, effectivement, tant pour ceux qui sont déjà sur le terrain que pour les futurs entrants.
C'est ça. Pour l'ensemble du champ. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons ensemble avec Agir pour arriver à accompagner toute la chaîne des primo-entrants, donc de la formation initiale jusqu'à la formation professionnelle au sens large avec les primo-entrants qui arrivent dans le secteur.
Troisième question qui fâche. Est-ce qu'éco-concevoir, ce n'est pas se priver du beau dans la conception ? Allez, on va oser cette image. Est-ce que ce n'est pas revenir finalement à la paille, au bois, à la brique qu'on voit dans l'histoire des trois petits cochons ? Est-ce qu'on peut toujours avoir des bâtiments design moderne avec l'éco-conception ?
Alors, on peut effectivement répondre à tous les objectifs qu'on va se fixer en début de projet. Alors, pour revenir à cette histoire des trois petits cochons, peut-être que leurs objectifs initiaux n'étaient pas nécessairement bien positionnés. Aujourd'hui, quand on éco-construit, on mixe les matériaux. Et on est en capacité technique de mixer de la paille, du bois, de la brique, du béton, du métal, dans une intelligence de solutions constructives qui répond tout à fait à l'éco-conception, c'est-à-dire le bon matériau au bon endroit au service d'une solution constructive qui soit éco-efficiente. Donc je pense que c'est tout à fait, en fait dans la logique de ce qu'on propose, si nos trois petits cochons, on pouvait les accueillir aujourd'hui dans un CFA, on serait en capacité de leur proposer une approche un peu différente.
Ça change l'histoire pour nos enfants.
Voilà, tout à fait. Et donc, d'éco-construire.
Daouvone, selon vous.
Je pense que surtout qu'on peut associer bien sûr l'esthétique et l'éco-conception dans une démarche tout aussi frugale et résiliente. Et on peut trouver aussi des réponses dans l'architecture et le minimalisme, l'aspect brut des matériaux, mais aussi dans une forme de complexité, d'innovation par le biais, par exemple, du biomimétisme et l'architecture, où là, on développe vraiment des matériaux et des procédés qui sont certes complexes, mais qui répondent justement à cette forme d'esthétique et de conception architecturale très, très forte et belle, finalement.
Oui, parce que, justement, l'éco-conception, hein, ce n'est pas synonyme de déficit thermique, énergétique, de fragilité. Bien au contraire, on l'a vu tout à l'heure avec la gestion globale, la vision globale que l'on a sur le cycle de vie. Merci d'avoir répondu franchement à ces questions qui fâchent et on va enchaîner tout de suite avec notre quatrième partie, toujours sur Bâti Radio et Radio Imo, pour ce Wheel 3 avec la séquence Open Questions et c'est vous qui nous posez les questions tout de suite. Alors, première question que je peux lire sur mon moniteur en direct, parce que c'est vous qui posez les questions dans cette séquence open. Question, quel est le surcoût acceptable pour l'éco-conception? Très bonne question.
Eh bien, aucune. Est-ce qu'on est d'accord sur
aucun
cette
surcoût,
réponse
donc.
Aucun surcoût, oui.
On est d'accord, aucun surcoût, en fait. Aujourd'hui, on l'a évoqué, il y a un mouvement qui est en train de s'engager pour transformer effectivement les professionnels, les usagers dans une certaine mesure, pour que le mouvement soit rapide, systémique, transformatif, il faut rendre les choses faciles pour tous ces acteurs et ou usagers. Et donc, le travail d'un certain nombre d'organismes qui accompagnent tous ces projets, ça peut être le cas effectivement d'Aovon, l'évoquait dans son activité, c'est le cas d'Agir, mais de bien d'autres, c'est de faire en sorte que les entreprises, les artisans que l'on accompagne vers une construction sobre et durable, l'accompagnement se fasse sans aucune difficulté, sans tracas supplémentaires et surtout à minima à iso-coût et souvent en proposant effectivement des leviers d'efficience qui soient différents, pas toujours des leviers en euros. Parfois, un certain nombre d'acteurs trouvent des avantages dans différents domaines qu'ils n'auraient pas soupçonnés en début de projet.
Et finalement, plus d'acteurs s'empareront de l'éco-conception, plus finalement ces circuits seront simples d'accès et le coût sera plus une question, puisque
voilà,
tout le monde fonctionnera de la même façon. Une question qui paraît pertinente, à qui m'adresser pour lancer ma démarche d'éco-conception?
La maîtrise d'ouvrage, aux acteurs de la construction?
Oui, on peut très bien se faire accompagner par des experts, effectivement, de l'éco-conception et de l'économie circulaire, et aussi accompagner dans le sens financier aussi. Il y a des appels à projets des pouvoirs publics, des financements publics qui soutiennent ces démarches-là.
Enfin, si on a bien suivi les débats du jour, aussi à la formation, on peut
s'engager
à la formation.
Oui, bien évidemment, si au centre de formation, tout à fait.
Si je manque de compétences, je peux venir effectivement parfaire mes savoirs.
Exactement. Les centres de formation, rappelons-le, c'est ce que l'on développe, c'est ce que l'on va expérimenter aussi sur l'éco-conception et l'économie circulaire au sens large, sont aussi des points de contact, des points de référence pour cette démarche systémique.
Donc à 3CABTP, et je peux aussi m'adresser à Agir, si j'ai bien compris.
Oui, alors évidemment, moi j'ai présenté Agir. Nous, notre travail, c'est d'accompagner un certain nombre d'opérations, donc des professionnels sur le terrain. Ça fait partie de l'ensemble, je dirais, de l'offre d'Agir. Mais comme la volonté, c'est d'être un doutant, que les choses se développent très rapidement, moi, je souligne quand même qu'aujourd'hui, le marché en termes d'accompagnement est à ce point important et ouvert que j'invite tout le monde à chercher les bons partenaires pour s'impliquer dans une démarche effectivement d'accélération du déploiement, que ce soit Agir ou d'autres. Il y a beaucoup d'acteurs très pertinents sur le sujet et le levier passera par la formation.
Par la formation, et on va compléter par une autre question qui n'est pas tout à fait la même, Franck. Quelles sont les actions mises en place pour accompagner les entreprises afin de mettre en œuvre de nouvelles démarches et faire évoluer sa conception vers l'éco-conception? Donc, c'est des gens qui sont déjà effectivement dans le circuit, on va
qui
dire.
Qui sont déjà dans le circuit. Bah, aujourd'hui, le plan de relance. Le plan de relance qui fait la part belle, justement, à la rénovation, à l'éco-conception. Donc, pour donner quelques chiffres, 4 milliards d'euros consacré à la rénovation énergétique des bâtiments, donc que l'État met en place, donc 2 milliards concernant les logements privés, et puis donc 500 millions de logements sociaux concernés, donc ce qui n'est pas rien au regard du volume actuel du marché, et puis donc 200 millions dédiés aux TPE-PME pour passer ce cap.
Et là aussi, j'insiste, l'éco-conception, c'est pas uniquement pour les constructions neuves, mais ça peut être aussi pour de la rénovation, hein, on est d'accord.
Oui, tout à fait. Et je pense que, en fait, c'est même une démarche plus vertueuse d'être dans la rénovation parce qu'on a déjà de la matière existante à valoriser sur des chantiers de rénovation, finalement. La matière est très précieuse quand on veut faire de l'éco-conception.
Et rappelons-le, 5 millions de passoires thermiques à ce jour. Donc 5 millions de passoires thermiques à rénover.
En une phrase avant de passer au Money Time Win Lab, est-ce que éco-construire contribue-t-il aussi au bien-être dans l'habitat? Une phrase. Stéphane.
Aujourd'hui, éco-concevoir, c'est s'engager vers un éco-usage de son habitat. Donc répondre, je dirais, aux aspirations les plus profondes de l'usager.
Daouvon.
Alors, quand j'entends confort dans l'habitat, moi, je dois parler quand même des matériaux biosourcés, parce que c'est ce qui va vraiment renforcer la qualité de l'air des habitats, puisque ce sont des matériaux sains et respectueux de l'environnement.
Tout à fait. Franck.
Oui, durabilité égale confort de l'usage, confort des usages. Donc pour moi, oui, ça va de soi.
Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. On passe à la dernière partie, la conclusion de cette émission avec le Money Time Win Lab. Avant de laisser Franck Le Nuellec conclure pour 3CA BTP et l'incubateur WinLab en 2 mots et 30 secondes, quelles perspectives dresser sur la thématique du jour? Là, je m'adresse à tout le monde. Quelles opportunités à venir pour les apprenants dans le cadre de l'éco-conception? Stéphane.
Pour les apprenants, je résumerai ça de manière assez simple. S'engager dans l'éco-construction, c'est éco-construire son parcours professionnel.
Oui, et puis c'est accroître vraiment c'est la valeur et le sens de son métier. Et je pense qu'on peut vraiment s'engager dans ce défi climatique en faisant de l'éco-conception.
Franck, je vous laisse conclure.
Oui, alors, je vais faire de la redite, mais c'est vrai que pour donner un dernier chiffre, 70 à 80% des apprenants aujourd'hui, des apprentis, veulent s'engager dans cette démarche environnementale et sociétale. Et donc ça correspond aussi, c'est ce que disait Alain Saint-Stéphane, c'est il y a un engagement sociétal. On choisit l'éco-conception, on choisit l'économie circulaire parce que on veut avoir un engagement de vie, un engagement environnemental. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a assiste sur la dernière rentrée à une augmentation de 18% de ces jeunes qui veulent des formations sur les métiers les associés à la transition écologique. Donc bien évidemment, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité en termes d'engagement, en termes de métier, en termes de perspectives de carrière. Et donc surtout, ça leur permet de décloisonner, d'ouvrir leur chakra et d'avoir cette approche collaborative, collective. Donc c'est ce que l'on disait tout à l'heure, l'éco-conception, oui, l'économie circulaire, oui, et c'est totalement dans l'air du temps et dans la nouvelle façon d'appréhender le monde de la construction.
On est sur un savoir en branche, on est obligé de se connecter aux autres métiers, c'est ça ?
Exactement, tout à fait.
Merci, merci pour ces précisions et effectivement que vous développez au sein de 3CA BTP. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir contribué à nourrir ce WinLab Innovation Live qui touche à sa fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Radio Imo et Bâti Radio de nous avoir accueillis aujourd'hui. On se retrouve le 8 juin pour éclairer à nouveau ensemble les enjeux et nouveaux usages de la construction. On parlera d'approvisionnement durable avec Franck Le Nuellec, bien sûr, pour 3CA BTP et l'incubateur WinLab, mais aussi Stéphane Le Guiriec et d'autres intervenants. Merci Daouvon d'être venu et
merci à vous
de nous avoir suivis.
Merci.
Au revoir. WinLab Innovation Live, épisode 3. L'éco-conception dans la construction, opportunité à saisir pour les apprenants. Une émission à retrouver sur www.winlab-cccabtp.com, Radio Imo et Bâti Radio.